On a beaucoup parlé d'hydrogène dernièrement. De grandes entreprises du secteur de l'énergie investissent dans les infrastructures un peu partout dans le monde. L'industrie automobile développe des moteurs à hydrogène. Des pays préparent leur stratégie sur l'hydrogène. Des médias comparent même la recherche d'hydrogène naturel à la ruée vers l'or du 19e siècle. Mais pourquoi maintenant? Jamais on ne s'y est autant intéressé. Précision qu'on parle ici de l'hydrogène naturel. Pourrait-il apporter une solution à la crise climatique? La solution écologique qui change la donne? Celle que tout le monde appelle de ses vœux? Ou pas? Pour répondre à ces questions, entre autres, nous avons fait appel à l'un de nos spécialistes de l'hydrogène. Restez à l'écoute pour ne pas rater cette conversation. Bienvenue à ce nouvel épisode de La Science simplifiée, le balado qui vous parle de l'excellent travail scientifique que font nos experts à Ressources naturelles Canada. Je m'appelle Joël Hull. Nous avons pour vous une émission vraiment intéressante. Nous parlerons aujourd'hui de l'hydrogène naturel. Et pour être bien franc avec vous, c'est un sujet qui ne m'est pas du tout familier. C'est la raison pour mon enthousiasme à recevoir un expert qui pourra éclairer nos lanternes. Question de savoir pourquoi on s'intéresse autant à l'hydrogène naturel. Sans plus tarder, voici notre invité. Nous avons avec nous Makram Edley, chercheur scientifique postdoctoral situé à Calgary. Makram, ça va bien?
Oui, ça va bien, et vous?
Oui, très bien. Est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu de toi?
Bon, écoutez, d'abord, merci pour l'invitation. Donc, comme vous l'avez mentionné, mon nom est Makram Edley. Je suis chercheur à la commission géologique ici à Calgary. Donc, nous sommes une division de recherche attachée au ministère des Ressources naturelles du Canada. Et ici, donc, dans mon rôle de chercheur, je travaille sur plusieurs projets, donc en géothermie, séquestration de carbone, hydrogène. Et donc, tout ça s'insère dans le cadre du programme de géoénergie qui est basé ici à Calgary et qui vise à aider le Canada à atteindre donc la carboneutralité d'ici 2050. Donc, sur le plan personnel et professionnel, je suis géologue de formation académique. Donc, mon intérêt à la géologie a commencé à un très jeune âge où j'ai grandi en Tunisie, donc à la jonction des Atlas et de la mer méditerranéenne. J'ai aimé les roches, les fossiles, les couches sédimentaires. Et du coup, quand j'ai déménagé dans mon pays adoptif, le Canada, depuis à peu près 25 ans, un quart de siècle, j'ai étudié les sciences et plus précisément géologie à Montréal, en bac maîtrise, avant de me déménager à Calgary, donc en Alberta, depuis une décennie. Et là, j'ai fait mon doctorat en géologie sédimentaire. Et je me suis attardé à étudier donc les bassins sédimentaires de l'Ouest canadien et de l'Ouest américain, afin de comprendre en fait l'architecture de ces bassins stratigraphiques. Et donc, c'est un exercice très important parce que ça nous permet de comprendre les processus d'interaction entre le mouvement de croûte terrestre, l'océanographie et le climat, qui non seulement nous permettent de comprendre comment la Terre fonctionne, mais aussi nous permet de localiser les gisements d'intérêt, qui sont hier, où ça fait 100 ans, c'était le pétrole, aujourd'hui c'est l'hydrogène, demain ça serait autre chose. Donc voilà. J'espère que j'ai fait le tour de la question.
Wow!
Mais c'était pas long.
T'as voyagé beaucoup, t'as vu beaucoup. C'est super intéressant. Aujourd'hui, on est ici pour parler d'hydrogène naturel. C'est quoi l'hydrogène naturel? Puis comment est-ce que c'est différent des autres types d'hydrogène?
Bon, écoutez, je pense que je vais commencer d'abord par faire une digression. Je vais sortir un peu de la question pour y revenir. D'abord, okay. Il faut savoir que l'hydrogène est très présent dans notre économie. Donc l'hydrogène, il est là, on l'utilise dans les processus industriels, il est dans le pétrole, dans la pétrochimie, l'industrie de pétrochimie, l'élevage bovin, les laboratoires industriels, médicaux et commerciaux. Donc on l'utilise comme un gaz inerte pour transporter les molécules qu'on veut doser. Donc on l'emploie massivement, il fait partie de notre économie. Par contre, cet hydrogène qu'on utilise, c'est un hydrogène produit, il est synthétique. Ça veut dire que nous, on va séparer l'hydrogène d'autres molécules dans les hydrocarbures ou par électrolyse dans l'eau. L'eau, hein, c'est de l'hydrogène et l'oxygène, bien évidemment. Et donc, du coup, c'est un processus qui nécessite de l'énergie. C'est énergivore. Donc, il faut qu'on mette de l'énergie pour produire l'hydrogène. Et là, donc, on a créé ce code de couleur qui, justement, nous donne une idée sur le processus employé pour produire l'hydrogène. Donc, par exemple, l'hydrogène gris, c'est l'hydrogène qu'on produit en utilisant une énergie émettrice d'émissions polluantes, comme le méthane ou le CO2. Et donc, l'hydrogène bleu, c'est l'hydrogène qu'on produit, mais maintenant, on va utiliser un processus industriel qui est jumelé à une stratégie de mitigation. Ça veut dire on va contrôler les émissions, le CO2 ou le méthane, etc. On va stocker le CO2, on va le traiter, enfin, pour que le produit final sorte son sous-produit polluant. Donc, on l'appelle l'hydrogène bleu. Et finalement, aujourd'hui, donc, le hype, ce qui est N, c'est l'hydrogène vert. Et ça, donc, c'est l'hydrogène qu'on produit avec un processus qui utilise l'énergie aussi, mais c'est de l'énergie propre. Par exemple, c'est l'électricité ou une électricité qui est produite par l'hydro. Et là, on a un produit final, l'hydrogène, mais aussi on n'a pas pollué. Donc, on a une énergie propre qui a été utilisée. Et donc là, on va passer aux deux autres couleurs. Hein. Préparez-vous, c'est l'arc-en-ciel. Alors, on parle de gold or white, donc c'est le blanc ou doré. Bon, tout ça, c'est la même chose, hein, doré ou blanc, mais c'est l'hydrogène naturel. Ça veut dire, nous, on n'a rien fait, on n'a pas fait d'électrolyse, on n'a pas utilisé un procédé industriel, mais plutôt la nature a fait le travail pour nous. Et là, du coup, donc, on a un hydrogène qui est déjà prêt, qui se trouve dans les couches géologiques. D'ailleurs, on l'appelle aussi l'hydrogène géologique, et qui attend à être découvert, mais il faut qu'il soit en accumulation suffisante. Ça veut dire, il faut que ça soit économiquement rentable, il faut qu'il soit accessible aussi. Et donc, il faut qu'on le trouve. Donc, voilà l'hydrogène naturel.
Wow! J'espère que j'ai répondu à la question. Wow, OK. C'était beaucoup d'informations. Merci beaucoup. Puis oui, t'as l'arc-en-ciel au complet. Alors, j'ai entendu beaucoup d'idées fausses. Alors, c'est quoi les idées fausses les plus courantes concernant l'hydrogène naturel?
Je pense que d'abord, pour commencer, c'est un nouveau sujet. Hein. Donc, j'imagine comme n'importe quel nouveau sujet, ça ne veut pas dire que l'hydrogène est nouveau, mais le sujet, l'intérêt est nouveau. Donc, il y a plusieurs idées fausses. Et puis, si je peux les catégoriser pour simplifier l'exercice, je les catégorise en trois catégories. Donc, il y a au niveau de la perception, des dimensions. Hein. Il y a au niveau de la sécurité, de la manipulation. On a des mauvaises idées sur la sécurité et la manipulation. Et puis, il y a aussi des fausses idées qui sont à très plus sur le côté scientifique. Donc, pour revenir sur la perception, je pense comme n'importe quelle nouvelle technologie, nouvelle vision, nouvelle idée, il faut faire attention à générer beaucoup ou un excès d'enthousiasme. Il faut qu'on soit réaliste avec nos attentes. Et il faut qu'on soit cohérent avec nos observations scientifiques. Ce que je veux dire, ça veut dire que, par exemple, l'hydrogène à lui seul, aujourd'hui, ne résoudra pas le problème de l'humanité. Donc, c'est pas... un tool dans un toolbox, ça veut dire que c'est un outil parmi d'autres outils, avec les énergies propres, avec la géothermie, avec la séquestration de carbone. Donc oui, avec tout ça, nous pouvons atteindre la carboneutralité. D'une façon optimiste, il peut faire 20% la solution, mais à lui seul, il n'est pas la solution pour l'humanité ou pour la crise climatique, etc. Au niveau de les fausses idées, au niveau de la sécurité, par exemple, de la manipulation, je pense si on interroge les gens dans la rue, aujourd'hui, on va leur dire qu'est-ce que tu connais sur l'emploi et l'utilisation dans l'hydrogène. Hein? Je pense à un exemple qui va revenir, c'est la catastrophe de 1937, l'aérostat ou bien le rigid airship, le ballon qui a explosé à New Jersey allemand qui utilisait l'hydrogène en fait, et je pense 335 personnes sont mortes. Et donc c'était une catastrophe, et puis là ça fait peur un peu parce qu'on pense qu'on ne peut pas le manipuler. Mais dans ce côté-là, je pense que l'hydrogène c'est un gaz comme n'importe quel gaz. On utilise plusieurs gaz, le méthane, le gaz naturel, on l'utilise. Donc au niveau de la manipulation, on a de l'expérience, surtout que, je ne sais pas si vous le savez, mais au niveau des centrales nucléaires, on les utilise depuis un siècle, l'hydrogène est un sous-produit. Et nous, comme humains, la société civile, on a vraiment une bonne expérience avec la manipulation des gaz, et l'hydrogène est un gaz. Donc finalement, au niveau des fausses idées scientifiques, au niveau de la science, il y a des nouvelles idées, un peu de bruit qui tournent autour du fait que l'hydrogène peut promouvoir l'accumulation ou le temps de résidence de méthane dans l'atmosphère, étant un gaz à effet de serre. Mais là, c'est des idées très préliminaires, ça prend beaucoup d'études, ce n'est pas prouvé du tout. Et même à ça, j'ajouterais personnellement le fait que, oui, le méthane fait partie des gaz à effet de serre, mais 100 ans de résidence, déjà en partant, c'est pas très long. C'est 12 ans par rapport au CO2 qui reste des siècles dans l'atmosphère. Donc ça, c'est, ça prend plus de recherche. Bon, je peux énumérer d'autres procédés, comme on pense que l'hydrogène se trouve seulement profondément dans la Terre, dans les socles cristallins, alors que non, on sait que c'est un gaz, il peut migrer. Donc, il peut se trouver dans des trappes ou dans des pièges stratigraphiques sédimentaires. Comme n'importe quel gaz, il peut être proche de la surface. Il faut juste le trouver. Et finalement, je pense que le plus important, ou l'idée, misconception la plus importante, c'est qu'il ne faut pas penser que c'est une source inépuisable. Donc, l'hydrogène est exactement comme l'hélium. Je vais prendre l'hélium comme analogie. Je ne sais pas si vous savez, mais il nous reste 25 ans de stock d'hélium pour, sur la Terre, ce qu'on a. Et l'hélium est très utile dans tout. On l'utilise dans les laboratoires. On l'utilise pas seulement pour changer les voies dans les ballons, dans les party balloons, mais non, on l'utilise vraiment dans tout ce qui est médical. Il est très utilisé. Et là, maintenant, il y a justement une réduction de son utilisation à tout ce qui est vital. Et même ici, à la Commission géologique, notre laboratoire qui utilisait l'hélium, ben, on a changé vers l'azote parce que on peut plus. Les prix sont exorbitant, puis il n'y en a pas assez d'hélium, donc il est réservé pour tout ce qui est vital pour l'humanité. Donc l'hydrogène, ça serait probablement la même chose.
Je vois. Alors, il me semble qu'on parle de plus en plus d'hydrogène naturel, non seulement ici au Canada, mais dans le monde entier. Alors, pourquoi maintenant?
Ben écoutez, comme j'ai déjà dit, on connaît l'hydrogène depuis longtemps. Hein. C'est pas l'hydrogène n'est pas nouveau, c'est l'intérêt qui est nouveau. Et je pense que l'intérêt est suscité normalement par la nécessité, par le besoin. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de s'intéresser parce que, comme j'ai mentionné, on a un défi, le défi des changements climatiques, le défi d'énergie renouvelable, le défi de trouver d'autres sources qui sont durables, sustainable, je ne trouve pas le terme, mais je m'excuse, pour l'environnement. Et donc, aussi, on a une démographie croissante sur la planète, on a besoin de plus en plus d'énergie. Et donc là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui peut contribuer et l'hydrogène peut finalement contribuer. Donc, juste pour donc, réitérer la question pourquoi maintenant, bah, écoutez, comme j'ai dit, ce n'est pas nouveau l'hydrogène. On l'a déjà en science, on trouve ce qu'on cherche. Hein. Donc, à moins que l'hydrogène nous a sauté aux yeux, ça fait longtemps. Donc, je ne sais pas si vous savez, en Australie, en 1929, ils ont creusé pour du pétrole. Ils ont trouvé depuis presque à 90% hydrogène, alors ils les ont abandonnés. Donc, ce n'est pas ça ce qu'on cherche. Hein. Mali, il y a un autre cas au Mali, donc un pays de l'Ouest africain, où on creusait pour l'eau et du coup, on a trouvé justement un puits qui était sec, mais avec 98% d'hydrogène. Bien évidemment, ça n'a pas généré l'intérêt économique des investisseurs, mais ça générait en fait un intérêt scientifique. Donc, on a fait des études et on a trouvé, là où on trouve c'est ce qu'on appelle seepage ou leaks d'hydrogène, ben, la végétation pousse et ça forme des cercles. Je pense en anglais, on dit the fairy circle, donc c'est des cercles angéliques, je pense. Donc, je ne sais pas comment le traduire. Mais du coup, donc, on a réalisé que maintenant, ça peut être un indice pour localiser l'hydrogène. Et en Australie, justement, on a commencé depuis 2019 à chercher ces cercles-là comme étant un indicateur de la présence de l'hydrogène, maintenant qu'on réalise qu'on a besoin de l'hydrogène. Donc voilà, je pense que, la nécessité, aussi, je pense que l'investissement est prêt économique. On est prêt à passer à l'autre étape où l'hydrogène dépasse le fait qu'il soit juste utilisé dans les laboratoires, mais peut-être un jour rentrera dans le transport, etc. Donc voilà.
Alors, c'est comme tu as mentionné plus tôt, c'est vraiment un outil qu'on peut mettre dans notre boîte, c'est ça?
Oui, okay. Absolument, absolument. Donc, il fera partie de la suite d'énergie renouvelable. D'énergie propre, je m'excuse, ouais.
Alors, peut-être que ça va répondre à ma prochaine question, mais je me demandais pourquoi c'est important de trouver des gisements d'hydrogène naturel et puis de continuer à mener des recherches scientifiques sur l'hydrogène naturel. Est-ce que c'est quoi les avantages? Qu'est-ce qui peut y parvenir?
Ben, je pense que l'importance de les trouver, c'est que, imagine, tu dois produire quelque chose toi-même, tu dois dépenser de l'énergie, donc on tourne presque un cercle vicieux. Hein. S'il faut utiliser de l'énergie pour produire de l'énergie, ben, c'est un cercle vicieux. vous voyez. L'idée, c'est que si on a des gisements naturels, ben, ils sont déjà prêts pour nous. On a juste à les extraire et les utiliser. Donc, c'est question de rentabilité, fonctionnalité aussi. Et du fait qu'on se rend compte aujourd'hui que ça existe, en fait. Autrefois, on ne pensait pas qu'on peut trouver l'hydrogène comme gaz, mais là, les études, il nous a sauté aux yeux. Mais c'est ça, la science. Hein. Généralement, on commence par une question. Je pense que quand on a fait la première découverte au Canada, Dr. Sherwood, cherchez pas ça, mais ça nous a sauté aux yeux. Et du coup, on réalise, ah, ben, on peut le trouver, ça peut exister. Donc maintenant, on pense que oui, si ça se trouve en quantité industrielle, rentable économiquement, ben, pourquoi pas? Parce que hein, c'est une économie, on n'a plus besoin de produire, on n'a plus besoin de dépenser l'énergie pour produire de l'énergie. Donc ça, c'est un. Deux, pourquoi il faut faire les recherches là-dessus? Parce que je pense qu'on ne s'est pas attardé à faire des recherches sur l'hydrogène dans le passé. Il était un sous-produit d'autres recherches. On a cherché le pétrole, on a trouvé l'hydrogène. On a cherché l'eau, on a trouvé l'hydrogène. Mais on n'a pas dédié des études vraiment juste pour l'hydrogène. Et là, du coup, on se rend compte, peut-être c'est le moment de le faire. Donc il faut commencer à le faire. Et je pense qu'on a déjà commencé. En termes d'avantages, bah, écoutez, je pense que l'hydrogène, comme n'importe quel gaz, comme n'importe quelle source naturelle, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Hein. On a déjà l'expérience avec... C'est un gisement. Si ça se trouve, ça serait un gisement. Ça serait une ressource comme d'autres, comme le gaz naturel, comme le pétrole. Donc on a le savoir-faire, on a l'expérience, on approche le problème avec les mêmes questions et on sait où est-ce qu'on va se diriger. La seule chose, c'est qu'au lieu, le produit final, au lieu que ça soit gaz naturel, c'est hydrogène. Donc on est prêt. On a ce qu'il faut, on a l'expérience avec les ressources naturelles, on a l'expérience avec l'extraction des gaz des réservoirs géologiques, et donc ça serait probablement la même chose. Et donc, que faut-il faire pour y parvenir? Ben, ça prend un effort. Hein. D'abord, ça prend un effort qui commence par l'éducation, la sensibilisation, je pense. Il faut qu'on se rende compte de l'importance de l'hydrogène qui peut dépasser hein, les laboratoires, etc., pour rentrer carrément dans l'économie de tous les jours, dans le transport, si c'est possible, et dans d'autres utilisations plus pratiques et plus proches de nous, du citoyen. Ça prend de l'investissement, donc l'intérêt industriel. Il faut investir parce que si on ne dépense pas, ben, on ne fait pas de profit. Vous voyez, donc il faut vraiment investir. Et aussi, il faut joindre les forces, je pense, entre académie, gouvernement et industrie, donc pour aller chercher ces nouvelles frontières dans ce domaine.
Alors, tu parles de partenariat ici dans ce cas. Ça serait quoi le rôle de Ressources naturelles Canada lorsqu'on va procéder de l'avant avec ça? Ça serait quoi ton rôle à toi? C'est quoi qui est sur ta liste de choses à faire?
Ben écoutez, je pense, par exemple, le gouvernement du Canada en général, on a un rôle de leadership. Okay. Donc nous, par exemple, on a, étant une agence gouvernementale, par exemple, on a un accès à des données géologiques à travers le pays. Et ici, je dois aussi mentionner, revenir un peu en arrière, pour dire qu'au Canada, on a une tradition d'énergie qui remonte à 150 ans. Hein, peut-être hier, la mode, c'était le charbon, après, c'était le pétrole, après, le gaz naturel, maintenant, géothermie, hydrogène, etc. Mais on a cette tradition d'industrie d'énergie qu'on ne peut pas renier. Et donc, cette pratique ou cette tradition nous a laissé un patrimoine, hein, nous a laissé une expérience, un savoir-faire et surtout une base de données massive qui ne seconde à rien dans le monde. Je pense qu'au Canada, on a les plus grands bassins sédimentaires les plus caractérisés dans le monde. Donc, on a presque un million de puits pétroliers et chaque puits vient avec une panoplie d'analyses chimiques, géophysiques, géologiques, et toutes ces données, en majeure partie, surtout à l'Ouest, sont digitalisées. Et nous, en tant qu'agence gouvernementale, on a accès à ces données-là. Donc, maintenant, notre rôle, un, c'est de revenir à ces bases de données et aller détecter l'hydrogène qu'on n'a jamais pensé avoir, parce que c'est un sous-produit qui vient de l'analyse chimique. Donc, maintenant, ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire ça. Je dois aussi mentionner qu'une main toute seule ne peut pas applaudir. Donc oui, on essaye de faire ce travail pour dresser des cartes, pour détecter initialement les anomalies géologiques d'hydrogène. mais ça prend aussi des connaissances scientifiques pointues. C'est pour ça que maintenant, par exemple, on collabore. Notre collègue Dr Ardakani a contacté l'Université de Toronto. Ici, je vais un peu me vanter un peu. Je suis fier qu'au Canada, on a fait la première découverte d'hydrogène. Donc, Dr Barb Sherwood Waller, c'est elle qui a fait la première découverte de l'hydrogène naturel quand elle était étudiante à l'Université Waterloo. Elle a écrit sa thèse de doctorat là-dessus. Après ça, elle est devenue pionnière dans le domaine, donc travailler sur plusieurs projets en Afrique du Sud, au Canada. Et donc là, on collabore avec elle, avec son équipe, avec notre équipe. Et donc, on essaye de mettre en place donc, cette première phase, première étape du projet. Donc, où est-ce qu'on est ? On est, je dois avouer, dans un stade embryonnaire. Hein, c'est un petit embryon qui grandit tous les jours à temps réel quand on parle. Et donc, pour vous donner un exemple, par exemple, on n'a pas fait l'hydrogène, mais ici à l'ouest, par exemple, on a fait la géothermie depuis 1980. Dans la commission géologique à Calgary. Et donc, on a Dr Steve Grasby, mon collègue qui travaille avec nous ici, qui lui travaille dans la chaîne de montagnes de l'Ouest, Mount Meager, à BC, Colombie-Britannique. Et là, on a pensé que, justement, les processus qui produisent l'hydrogène sont similaires aux processus qu'on utilise dans la géothermie. Donc, c'est la roche, roche chaude, qui interagit avec l'eau pour amener de la chaleur à la surface, mais aussi il y a une série de réactions, chaîne de réactions chimiques qui peut produire l'hydrogène qui est similaire à ce qui se passe dans les gisements qu'on a trouvés dans l'Ontario. Et donc là, on se penche là-dessus aussi. Donc comme j'ai dit au Canada, au niveau de la GSI, on a un, donc pour résumer, l'accès à cette base de données qui nous permet donc de dresser ces maps ou donner ce fonds, fournir ce fonds initial pour l'académie pour travailler avec, en attendant un jour, donc, peut-être l'industrie aussi investit là-dedans, et là, ça devient un travail plus focalisé, à une plus petite échelle, bien précis, et puis voilà, donc on passe à l'étape de production et de on creuse carrément pour l'hydrogène.
Wow! Quand j'ai approché la conversation, je savais vraiment pas grand-chose sur l'hydrogène. Moi, je pensais le Hindenburg, puis les ballons de fête. Alors, j'ai une appréciation plus détaillée pour l'hydrogène. Alors, je te remercie beaucoup. Et puis, alors j'espère de pouvoir te ramener à l'émission dans le futur, et puis on va pouvoir parler d'hydrogène plus en détail.
Ben, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup.
Je tiens à remercier Makram de nous avoir aidé à mieux comprendre de quoi il retourne avec l'hydrogène naturel. Quel formidable invité! Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous envoyer des commentaires ou partager l'épisode sur les médias sociaux. La Science Simplifiée a aussi un site web et une chaîne YouTube que je vous recommande de visiter. Nous avons des articles et des vidéos intéressants sur le travail scientifique exceptionnel qui se fait ici à Ressources naturelles Canada. Les liens se trouvent aussi dans la description de notre épisode. Merci de votre écoute. Ne ratez pas notre prochain épisode.